France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
France Culture s'est déjà fait l'écho de la magnifique exposition visible en ce moment dans la grande halle de la Villette à Paris consacrée à Toutankhamon et au trésor du pharaon. Elle rassemble 150 pièces découvertes en même temps que le 11e pharaon de la 18e dynastie. C'était en 1922 par Howard Carter, il y a quasiment un siècle. Elle a dépassé cette exposition le cap du million de tickets vendus. Elle vient d'ailleurs d'être prolongée jusqu'au 22 septembre et nous allons y revenir ce matin, mais avec un angle d'analyse un peu particulier et un observateur fasciné que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin, écrivain, économiste, homme d'affaires, multidiplômé et multiqualifié. Si nous avons choisi de vous inviter à l'occasion de cette exposition, c'est en raison de ce qu'elle nous dit de notre rapport au temps, question qui pour vous est essentielle et dont vous êtes souvent saisi. Dans un article publié récemment sur votre site, vous écrivez qu'elle nous questionne, cette exposition, sur ce rapport au temps un peu complexe, notamment en ce qu'elle appuie ou, selon vous, ça fait si mal. Les Égyptiens ne se posaient pas la question de leur survie, de leur éternité. Nous, si.
Ben, les Égyptiens se posaient la question de leur survie, mais autrement que nous, puisque dans les classes, selon les classes sociales, on avait droit en quelque sorte à différentes classes d'éternité, ou à différents moyens d'y accéder. Mais cette accession était une accession personnelle, cachée, qui n'était pas liée à une présence physique aux générations futures. C'était même tout à fait nécessaire de ne pas être vu, puisqu'il s'agissait de conserver tous ces moyens pour soi. Et ce que l'on voit aujourd'hui, d'une certaine façon, est obscène, puisqu'on l'a volé dans les tombeaux, pris dans les tombeaux, volé pour dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas. Donc c'est une vision qui nous donne un regard sur des choses que les Égyptiens ne voulaient pas qu'on voit, et qui nous fascine d'abord pour ça, qui nous fascine parce que ça nous renvoie à la façon dont ce peuple pensait son immortalité, qui est assez différente des nôtres, puisqu'on en a plusieurs, qui sont soit liés à une immortalité religieuse monothéiste, pour la plupart d'entre nous en Europe, soit à une façon de penser l'immortalité par la renommée ou différentes formes d'illusions, ou par les hypothèses médicales, qui sont aujourd'hui de plus en plus prégnantes. Donc, alors ça nous renvoie à ça, puis ça nous renvoie aussi à beaucoup d'autres choses. Par exemple, nous sommes fascinés par des gens qui vivaient il y a 4000 ans, et qui sont encore là 4000 ans plus tard. Que serons-nous dans 4000 ans ? Y aura-t-il dans 4000 ans des gens pour regarder quelque chose que nous aurons laissé ? Que pourrions-nous laisser aujourd'hui qu'on veuille admirer dans 4000 ans ? C'est une question très intéressante.
Au-delà de la question de nos immortalités, c'est donc le fait que nous ne nous préparons pas de futur ou pas d'avenir, Jacques Attali.
Oui, c'est ça. Et ça renvoie à toutes les discussions les plus actuelles sur le climat et sur la façon dont on traite les plus jeunes générations qui nous crient leur désir que nous prenions en charge leur futur. C'est ce que, dans le cadre de la fondation que je préside, nous appelons l'économie positive, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations futures. C'est ça qui est évidemment l'essentiel, parce que travailler pour les générations futures, c'est travailler pour soi. Et si on travaille pour soi, eh bien, pour les générations futures, on crée les conditions d'une vie meilleure pour les siècles à venir, sans être garanti, parce qu'il faut aussi enseigner aux générations futures à s'occuper des générations d'après, ce qui est un long chemin. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde de plus en plus, c'est une banalité de le dire, obsédé par le narcissisme, par le soi, par l'instant. Malheureusement, les médias, mis à part France Culture, en sont trop souvent l'exemple, une instantanéité est ruineuse, et ce qui fait que quand on va voir cette exposition, qui est d'ailleurs magnifique, même si elle ne contient qu'une partie assez mineure de ce qui se trouve dans le magnifique musée du Caire, que j'ai eu le privilège de revoir il y a quelques semaines.
Le masque n'est pas là, par exemple, mais ça n'empêche pas, effectivement, l'exposition est magnifique, mais plus grave peut-être que les risques d'apocalypse, paradoxalement, Jacques Attali, vous estimez qu'on ne cherche plus à laisser de traces. Et ça questionne effectivement nos immortalités de traces pour les générations, les civilisations futures. C'est pas notre préoccupation du moment. Pourtant, les arts ne sont pas en crise. Les arts, ils sont là pour ça.
Non, les arts sont là pour ça. Ce qui est intéressant, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en Égypte, c'est que ce que nous glorifions, ce que nous admirons de l'Égypte, c'est des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on voit et qu'on laisse, et qu'ils ne voulaient pas qu'on admire aujourd'hui. Question : y a-t-il des choses que nous faisons aujourd'hui qui ne sont pas destinés aux générations futures, mais qui pourraient être considérés par les générations futures comme notre plus belle trace? comme c'est le cas pour les Égyptiens. Quand on réfléchit à cette question qui est intéressante, on ne trouve pas grand-chose. Peut-être peut-on trouver qu'un jour on regardera dans nos cercueils et on y trouvera des prothèses qu'on admirera comme des œuvres d'art, même si j'ai quelques doutes à ce propos. Peut-être pourrait-on penser que, et ce serait une réponse à la fois romanesque et poétique très intéressante, qu'une des choses qu'on pourrait admirer de nous dans 4000 ans, si tant est que l'humanité soit encore là, ce seront les messages que nous avons laissés aujourd'hui aux extraterrestres imaginables. Dans 4000 ans, s'il y en a, on les aura peut-être rencontrés, mais en tout cas les messages que nous laissons non pas à nos descendants, mais à d'autres, seront peut-être dans 4000 ans notre plus belle trace involontaire, à condition que cette trace soit belle. Ce qui n'est pas certain. Je ne suis pas certain que les messages que la NASA et autres ont envoyés ou envoient encore à nos voisins imaginables soient vraiment d'une grande qualité artistique.
Il n'est peut-être pas certain que les Égyptiens pensaient à l'avènement d'autres civilisations et à leur dialogue avec d'autres civilisations.
Non, bien sûr, ils pensaient leur civilisation immortelle.
Éternelle.
Mais, même si les civilisations égyptiennes ont été extrêmement mortelles, que il y a eu plusieurs empires avec des périodes de décadence entre les empires et que presque chaque pharaon, pas tous, mais presque chaque pharaon s'employait à faire oublier le précédent en martelant les traces qu'il pouvait laisser sur les pierres. Donc, il y a là aussi, même chez les pharaons, et même chez les Égyptiens, une volonté de victoire de l'instant que leur reste involontaire, ironiquement, a fait mentir.
Ce sont des questions qui vous fascinent depuis longtemps, hein, Jacques Attali, cette Absolument. Question du rapport au temps, à l'immortalité aussi. Oui. Dans L'Ordre Cannibale, publié en 79 déjà, vous vous intéressiez à la question. Il y a eu Une brève histoire de l'avenir, L'histoire du temps. Il y a cette collection de sabliers sur laquelle on reviendra peut-être, collection personnelle qui est visible d'ailleurs en ce moment, mais on y reviendra tout à l'heure. Cette société quand même du divertissement ou de la jouissance instantanée dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure, elle nous empêche de voir l'avenir, mais vous êtes aussi parmi ceux qui nous disent que l'humanité fait des progrès et que finalement, c'est pas si grave de jouir du moment en préparant l'avenir, peut-être d'une autre manière que les Égyptiens avaient de préparer l'avenir.
Bien sûr, je suis heureux que vous ayez mentionné ce livre de 1979 où je prévoyais à la fois les prothèses, les organes artificiels, le clonage avec toutes les problèmes qu'il poserait à la fois pour le clonage humain, le clonage animal.
Et l'analyse permanente du corps. Hein.
Et la permanente surveillance de soi, ce que j'appelais déjà l'autosurveillance, qui est aujourd'hui devenue une banalité, même si 40 ans plus tôt, ce ne l'était pas. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un moment où tout est possible, à la fois le pire et le meilleur. On voit à la fois s'installer des techniques de dictature virtuelle généralisée, de jouissance de la servitude, parce qu'il y a jouissance de cette peur de la mort qui nous amène à accepter d'être surveillé, de se surveiller soi-même, et en même temps il y a la possibilité de ce que nous appelons, ce que j'appelle les technologies positives, c'est-à-dire tout ce qui nous permettra de régler à la fois les problèmes de climat, les problèmes de la vie en collective, les problèmes de la une société plus juste et plus bienveillante. Tout ça est possible à condition de faire basculer notre société vers la prise en compte comme critère de décision de est-ce que c'est bon pour les générations futures ou est-ce que c'est simplement bon pour notre bien-être instantané. C'est je crois le grand choix et le choix difficile pour les démocraties parce que c'est beaucoup plus facile pour une dictature de prendre en compte l'intérêt des générations futures puisqu'ils n'ont pas à rendre compte à l'instant démocratiquement. Et donc toute la grande question que les démocraties affrontent maintenant, d'une façon encore balbutiante, mais qui va devenir explicite, c'est les démocraties peuvent-elles aussi bien ou mieux que les dictatures prendre des décisions dans l'intérêt des générations futures.
C'est extrêmement compliqué comme question, Jacques Attali. La démocratie, c'est aussi le droit de changer d'avis.
Absolument.
Et donc, c'est aussi la gestion du moment présent.
Absolument. C'est ce que, parce que si on pousse cette remarque que vous venez de faire, on s'aperçoit que le droit de changer d'avis, c'est le droit de rompre les contrats, ce qu'on fait d'ailleurs avec les contrats du logement comme les contrats de mariage. C'est donc le droit à la déloyauté. Et entre, il y a un incroyable continuum entre l'apologie de la liberté individuelle et l'apologie de la déloyauté. Et nos sociétés sont des sociétés de déloyauté institutionnalisée, et en particulier de déloyauté à l'égard des générations futures. Ceci doit évidemment avoir des limites, parce que la liberté ne peut pas suffire. Il faut que la liberté soit de chacun soit contrainte non seulement par la liberté des autres ici et maintenant, mais par la liberté des générations futures. Et c'est bien plus difficile à faire entendre, parce que naturellement, ceux-là votent encore moins que les autres.
C'est ça. Comment vous voyez le combat des jeunes en ce moment pour le climat? Vous l'avez évoqué en quelques mots, le combat de Greta Thunberg qui était à l'Assemblée.
Je le trouve très, très louable et très nécessaire, quelles que soient les personnes qu'il mène. Encore une fois, dans la fondation que je préside, nous ne faisons que ça, travailler dans l'intérêt des générations futures. Nous organisons des forums avec les lycéens, nous les faisons parler et les faire entendre, même si ça culpabilise quelques vieux barbons, ce n'est pas si grave. L'important, c'est de faire entendre la voix de tous ceux qui savent à la fois qu'ils vivront plus longtemps que nous dans ce qui pourrait devenir un enfer et qui pourrait ne pas le devenir, et qui disent aussi que tout n'est pas perdu. Ouais. Et que si on agit bien maintenant, nous en parlions encore récemment dans une émission de France Culture avec le professeur Abadi, les solutions sont possibles qui permettraient de stabiliser l'humanité à un niveau vivable en 2050.
Est-ce qu'ils sont en train de bousculer la postmodernité là, et de se réinscrire, ces jeunes, dans un avenir? Est-ce qu'ils sont en train d'inventer aussi, eux, une de ces immortalités dont vous parliez tout à l'heure?
Ça dépend de qui on parle, parce qu'il faut relativiser les choses. La France, c'est 1% de la production, c'est moins d'un pour cent de la production de gaz carbonique sur la planète. L'Europe, c'est 14%, la Chine, c'est 30%. Et après-demain, l'Afrique va balayer tout ça d'une progression extrême. Donc, il est important de donner l'exemple, mais il faut que cet exemple soit écouté et de faire en sorte que les autres pays du monde, en particulier les pays en développement, je pense en particulier à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique et au Brésil, comprennent que c'est leur intérêt de ne pas suivre notre exemple. C'est leur intérêt de ne pas suivre notre exemple. Alors qu'eux disent, tout ça c'est votre discours idéologique, vous avez cru, grandi, progresser et vous voulez nous empêcher de le faire par votre invention du climat. Laissez-nous nous enrichir, on verra plus tard. Non, il faut qu'ils comprennent que c'est leur intérêt de le faire et c'est notre rôle d'inventer des modèles de développement exportables, ce qui nous permettra d'ailleurs aussi cyniquement de gagner notre vie en exportant ce genre de production.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous appelez l'altruisme relationnel.
L'altruisme intéressé ou l'altruisme relationnel.
L'altruisme égoïste, il n'y a pas un problème.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est un oxymore intéressant. Nous avons intérêt à être... C'est une grande banalité, hein. Le boulanger a intérêt à ce que ses clients soient contents. Et vous avez intérêt à ce que vos éditeurs aient envie de revenir demain matin.
Et Dieu sait qu'on se lève tôt.
Voilà.
Vous êtes intervenu dans le débat sur Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Vous êtes opposé au remplacement de la flèche. En tout cas, vous dites on va pas reconstruire la flèche, surtout pas pour donner le temps, parce que c'est plus le rôle de l'Église que de donner le temps. Ce débat-là, il vous intéresse aussi?
Et c'est intéressant. J'ai écrit en effet un livre sur l'histoire du temps où j'ai essayé de montrer, comme beaucoup d'autres avant moi et après moi, que les églises étaient une façon que celui qui donne le temps donne le pouvoir. Celui qui a la maîtrise du temps donne le pouvoir. Donc l'Église donnait le temps dans les clochers parce qu'il maîtrisait le pouvoir du temps, donc le pouvoir tout court. Puis ensuite, c'est passé avec les dirigeants politiques et les bourgeois avec le beffroi de la ville. Et puis ensuite, c'est passé avec le marchand dans les gares, qui donne le temps encore aujourd'hui. Et je respecterai toute solution qui soit prise, évidemment, même si pour ma part, mais c'est purement un critère esthétique, je n'ai jamais été très favorable. J'ai toujours aimé Notre-Dame sans cette flèche, mais je conçois parfaitement qu'on ait envie de respecter ce qui existait et le remettre à l'identique.
Le débat est bien parti, selon vous, sur cette reconstruction de Notre-Dame? Parce que là, il y a un témoignage, là, il y a quelque chose qui est extrêmement important.
Je pense que si on veut faire des choses modernes, il faut les faire ailleurs. Par exemple, j'ai une idée qui m'est venue récemment, c'est que je trouve que le palais de l'Élysée n'est pas le bon endroit pour un président de la République. Pour y avoir vécu 10 ans, je peux en témoigner, c'est vraiment inconfortable.
Par contre, conseiller spécial de François Mitterrand.
Par contre, juste à côté de Notre-Dame, puisque nous parlons de Notre-Dame, il y a un endroit extraordinaire qui est l'ancien hôtel de Dieu. Je pense qu'on pourrait y faire, dans une partie, en tout cas réfléchir à y mettre une présidence moderne du 21e siècle, écologique, ce que n'est pas du tout le palais de l'Élysée, et en faire une belle vitrine de notre architecture, sans faire un concours Lépine pour Notre-Dame juste à côté.
Et ça nous dirait quoi du pouvoir politique?
Sa modestie d'abord, et sa centralité aussi, puisque c'est vraiment au cœur de la France que se trouve ce lieu.
En 79, vous nous parliez déjà de transhumanisme. Mm-hmm. Vous en diriez quoi en 2019, Jacques Attali, cette façon d'imaginer la vie?
Je n'ai pas beaucoup changé de point de vue, au sens où je suis convaincu que l'histoire du capitalisme, c'est de transformer l'homme en objet. Pour la raison la plus absurde, c'est que l'homme est mortel, tandis que les objets ne le sont pas. Et l'homme qui a envie d'être immortel aime être transformé en objet. Il passe pour ça par des prothèses, puis ensuite par des artefacts biologiques ou physiques. Et je pense que nous sommes dans ce processus d'accélération de cette transition qui est toujours liée à une obsession d'immortalité qui n'est plus seulement religieuse, mais qui devient de plus en plus matérielle. Et qui va nous amener à ces dérives. Alors la question est de savoir quand on va avoir le courage de fixer une limite, quand va-t-on décider qu'il y a un sanctuaire de ce qui est humain et d'arrêter cette course à la mort par la transformation en objet, qui est ce qui nous menace aujourd'hui.
L'immortalité, pour vous, c'est pas franchement un débat, Jacques Attali, si on prend en compte cette collection de sabliers. Quelle est son importance dans votre vie et dans votre réflexion sur le temps?
Les collections viennent par hasard et j'ai le privilège de commencer très jeune cette collection. Un sablier, c'est intéressant parce que c'est bien des choses. C'est à la fois un objet qu'on peut retourner qui indique le temps. Qui nous laisse croire que nous pouvons inverser le temps parce qu'on peut pas retourner le sablier, qui nous laisse croire qu'on voit le temps couler, mais en réalité dans la vie, l'ampoule supérieure du sablier est opaque, on ne sait pas si le grain qui coule n'est pas le dernier. C'est aussi un objet qui nous dit que tout est sable et poussière. Non seulement nous allons devenir poussière, mais le verre c'est du sable.
C'est du sable. Hein.
Et le sable c'est du sable. Donc ça nous dit beaucoup de choses. Faut pas donc s'étonner si le sablier est un objet qui a fasciné les sociétés européennes et occidentales depuis au moins le XIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où on a retrouvé la possibilité de faire du verre transparent.
Un grand merci, Jacques Attali. Je rappelle que cette exposition, enfin cette collection personnelle de sabliers est à voir en ce moment à Landerneau au sein d'une exposition sur les cabinets de curiosité. C'est au fond Hélène et Édouard Leclerc. Et puis je signale également toujours cette obsession au temps que sur la grille d'été de France Culture, on vous retrouve le dimanche entre midi et midi et demi avec Zoé Sfez pour une émission dans 18 ans.
Voilà. Ce que sera le monde quand ceux qui naissent aujourd'hui seront majeurs, si tant est que la majorité n'est pas changée d'ici là.
Merci beaucoup, Jacques Attali, d'être venu dans les matins d'été.